Des poches sous les yeux, l'interview, en partenariat avec la boîte à livres.
Donc bonsoir Alice Fernet, bonsoir. Merci de prendre du temps pour venir nous parler de votre dernier ouvrage, Le règne du vivant chez Actes Sud. Alors vous ne vous souvenez certainement pas, mais moi je vous ai déjà vu il y a plus de 15 ans au Salon du Livre à Paris, où je vous avais fait signer Grâce et Dénuement. Alors d'ailleurs je vous décerne la médaille d'or de la gentillesse, parce que vous preniez le temps de parler avec tous les gens, ça m'avait beaucoup impressionné.
Bah tant mieux.
Et donc Grâce et Dénuement qui mettait en avant Esther, hein, donc l'héroïne qui se battait pour la lecture, les livres. Et moi, quand j'ai lu Le règne du vivant, alors j'ai vu que certains critiques parlaient d'un changement de cap radical dans votre écriture. Et moi, j'y ai plutôt vu en fait un retour à une cause que vous vouliez défendre, alors cette fois celle de la nature. Donc pourquoi aujourd'hui avez-vous ressenti la nécessité de vous emparer de ce thème ?
En tout cas, vous avez raison de faire le lien avec Grâce et Dénuement. C'est vrai que quand mon éditeur a reçu le livre, il m'a dit ça. Il m'a dit, mais finalement, le sujet de l'engagement, des gens qui défendent une cause, revient souvent dans tes livres. Et c'est vrai, parce que même mon livre sur Bastien Thiry, c'était aussi ça, même si la cause me paraît beaucoup moins juste. Je pense que je suis toujours intéressée justement par les gens qui font des choses pas banales. Et du coup, j'ai toujours envie de savoir pourquoi ils les font. Et en l'occurrence, c'est vrai que ce livre était un hommage à une forme particulière d'activisme qui, justement, se prend vraiment des chemins de travers, se laisse aller à aucune corruption, à aucune compromission. Et je trouvais ça beau. Et donc, j'ai eu envie d'en savoir plus. Et c'est vrai aussi qu'au bout du compte, au moment où j'ai décidé de faire le livre, parce que parfois, on est comme ça pris par un sujet, mais on ne sait pas forcément si on va y passer 2 ans. Hein, et je me suis rendu compte que c'était un sujet éminemment inscrit finalement dans la littérature, parce que la baleine, c'est vraiment un personnage littéraire. Tout le monde pense à Moby Dick, mais il y a aussi un merveilleux livre de Paul Gaden qui s'appelle Baleine, qui est vraiment un petit joyau. Et du coup, j'ai eu vraiment l'impression de m'inscrire dans une tradition et d'étudier un sujet qui avait été traité au 19e et qui maintenant, évidemment, est complètement différent, puisque la problématique est plus du tout la même. Les chasseurs de baleines sont plus les héros, mais au contraire, des gens qui contribuent à exterminer une espèce déjà en voie de disparition. Et je trouvais ça intéressant, finalement, d'écrire comme ça un personnage qui était moderne et qui entrait en résonance avec le capitaine Ahab.
Et alors, pourquoi le choix du roman pour un sujet comme ça? On pourrait se dire un essai pourrait être tout à fait approprié. Est-ce que pour vous, c'est parce qu'il y a plus de force dans l'écriture romanesque?
Non, d'abord, c'est parce que je trouve que c'est bien de faire ce qu'on sait faire. C'est quand même ça qu'on fait le mieux. Et j'ai toujours eu du mal avec l'essai, dans le sens où l'essai, c'est moi qui parle, c'est moi qui affirme, c'est moi qui prétends dire et oui, affirmer des vérités, c'est pas du tout mon style. Je suis toujours, comment dire, je vois que je suis toujours traversée par des tas de doutes. Et donc, je suis curieuse, mais je ne suis pas sûre. Alors, avec le roman, c'est bien, puisque tout le monde peut, plusieurs personnages peuvent présenter différents points de vue. Il peut y avoir comme ça une espèce de circulation des questions qui sont celles que je me pose et j'ai pas toujours les réponses. En fait, moi, j'écris beaucoup pour justement avoir une espèce de questionnement actif qui produit à la fin un livre, mais qui m'apporte partiellement des réponses, mais pas toutes les réponses. Donc le roman, ça me paraît le genre qui justement, pour moi, est le plus adéquat. Et puis c'est vrai que ça fait 25 ans que j'en écris, alors que j'ai jamais écrit d'autres essais qu'en économie à une époque.
Et alors moi, s'il y a un changement de cap que j'ai remarqué dans votre écriture, pour le coup, c'est le parti pris narratif. Hein, parce que, alors si je ne me trompe pas, je crois que c'est la première fois que vous utilisez la première personne, hein, c'est-à-dire que le narrateur du récit est également un personnage, il participe. Alors pourquoi ce choix et pourquoi là pour la première fois?
Alors c'est vrai aussi, C'est la première fois que je choisis un narrateur qui n'est pas le narrateur balzacien omniscient, mais un narrateur protagoniste qui dit « je ». C'est surtout parce que je ne l'avais jamais fait. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai l'impression d'apprendre à écrire et du coup, j'ai envie d'expérimenter. Et donc, chaque livre est toujours aussi porté par une sorte d'objectif, d'expérimentation. Je cherche à faire quelque chose que je n'avais jamais fait, à apprendre quelque chose que je n'avais jamais encore maîtrisé. Et donc là, c'était vraiment ça au départ. Je me suis dit, tiens, cette fois, je vais prendre un « je » qui parle d'un « il », qui est une forme de la construction romanesque qui est vraiment très féconde. Enfin, je l'ai beaucoup admiré, par exemple, chez un écrivain comme Philippe Roth. Mais lui, je m'en suis rendu compte après, prend le « je » qui dit « il » et le double de lui-même. C'est-à-dire vraiment le double de « c'est où Zuckerman ou Kepesh ?» Mais c'est pas carrément un personnage. Ce qui est amusant, c'est que quand j'ai choisi d'écrire comme ceci, c'est seulement après que je me suis rendu compte que Moby Dick était construit de la même façon. Et j'ai trouvé ex post que ce mode de narration me plaisait pas tellement dans la mesure où en fait le jeu qui parle du il, c'est-à-dire un personnage qui raconte l'aventure d'un autre, finalement celui qui raconte on le connaît pas tellement. Et ça j'aime pas.
Surtout que là c'est l'opposé de vous-même. Moi ce qui m'a choqué, enfin choqué, c'est un bien grand mot, ce qui m'a marqué, c'est que ce jeu c'est un homme qui n'est pas un homme d'écrit, mais un homme d'image, ouais. Et puis un Norvégien, oui, ce qui a priori vrai. Est à peu près antithétique de vous.
Ouais, c'est vraiment venu comme ça, et puis après, bon, je me suis dit que c'était une bonne idée. Alors, c'était quand même très pratique qu'il soit un... Je crois pas que je serais assez forte pour maîtriser un narrateur qui est un écrivain. Ça, vraiment, ça m'a toujours bluffé, les gens qui arrivent à ce que ça soit pas ou redondant ou ridicule. Mais là, le fait que ça soit quelqu'un qui filmait, c'était bien. Parce qu'en plus, j'avais vraiment dans l'idée que ce livre était comme la deuxième boucle d'oreille qui aurait dans une paire avec un film. Et du coup, le fait qu'il puisse filmer, ça me permettait d'écrire des films et de faire en quelque sorte un roman documentaire. Et ça, je trouvais ça bien.
Alors, vous avez déjà parlé d'un film dans un de vos ouvrages, Paradis conjugal,
oui,
donc
vrai,
qui était inspiré du film de Mankiewicz, Chaîne conjugale. Vous ferez un film un jour ou non?
Ah non, ça, je ne ferai pas de film. Bah, toujours parce que je vous dis, je crois qu'on fait ce qu'on sait faire. Et je n'ai pas du tout cette idée que quand on sait faire une chose, on sait faire toutes les choses. Ce n'est pas parce qu'on a un petit talent ou un petit métier quelque part qu'on peut s'autoriser à tout. Franchement, je m'intéresse beaucoup au cinéma et je suis toujours dans une sorte de questionnement sur que fait le cinéma que la littérature ne fait pas et que fait la littérature que le cinéma ne fait pas. Bon, moi, je me sens vraiment dans la littérature. Mais c'est vrai que plus on voit des films et plus on voit des bons films, plus je comprends qu'il y a une écriture cinématographique comme il y a une écriture littéraire. C'est vrai que tout le monde peut écrire un livre. Tout le monde peut écrire un livre ordinaire, un livre qui n'a pas forcément justement une vraie écriture. Et de la même façon, tout le monde peut faire un film sans qu'il y ait une écriture cinématographique. Mais ce n'est pas du tout ce que j'aurais envie de faire. Et c'est ce que je ferais si je faisais un film, parce que je vois bien que c'est pareil. Comme pour écrire, il faut avoir mangé beaucoup de livres. Je pense que pour avoir cet œil, il faut avoir quelque chose de très particulier que je n'ai pas.
Et alors, en parlant de création littéraire, vous avez créé un héros au sens premier du terme, donc Magnus Wallace, qui est un nom de légende nordique. Alors, vous êtes-vous inspiré de modèles réels pour ce personnage?
Ah oui, complètement. Je ne me suis même pas inspirée. J'ai reproduit un modèle réel qui est Paul Watson, le fondateur de la Sea Shepherd Conservation Society. Et vraiment, par admiration et par curiosité pour ce personnage. Qui me semblait être un homme rare, quelqu'un qui était justement, un incorruptible. Et ça, je trouvais ça vraiment beau. Puis par ailleurs, je suis complètement d'accord avec ce qu'il fait. Et je suis frappée par le discrédit auquel il est complètement confronté et qui me paraît assez injuste. Donc j'avais très envie d'écrire sur lui, oui.
Alors malheureusement, ce que vous racontez là, ça a de triste résonance avec l'actualité, puisque moi j'ai été frappée ces derniers jours d'entendre des expressions que vous reprenez dans votre livre sur l'intégrisme écologique. J'ai même entendu parler de djihadisme vert. Et effectivement, c'est ce qui est reproché à votre héros dans le livre. Donc pour vous, clairement, c'est un héros ou un terroriste, ce personnage ?
Écoutez, franchement, je me dis souvent, il y a vraiment une confusion du langage, parce que... D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, quelqu'un me parlait de justement ne pas qualifier de résistants des terroristes ou de terroristes des résistants. En revenant au sens des termes, terroriste, c'est qui sème la terreur. Je suis désolée de dire que ces personnages comme mon personnage ou comme Paul Watson ne sèment pas la terreur. Mais ce qui est plus frappant, c'est que finalement, moi j'ai bien vu certaines réactions des lecteurs qui disent « Non, j'ai pas envie de lire ce livre, alors je m'en fous des baleines et je m'en fous des animaux. » Donc quelque chose comme une irresponsabilité. Il y a aussi « Mais non, tout ça est faux », donc une sorte de déni. Il y a effectivement aussi « Alors on peut plus rien manger », comme si d'ailleurs les gens mangeaient des baleines. Et ce qui est amusant, c'est que, regardez les débats d'experts, les querelles incroyables que soulève juste le fait que, oui ou non, y a-t-il un réchauffement climatique ? Je pense au film d'Al Gore, la manière dont il a été contesté. C'est une forme de refus de même réfléchir et se dire, oui, il va falloir qu'on change notre comportement, notre relation à la Terre, notre mode de prédation de tout, parce qu'on est trop nombreux. Bon, c'est pas choquant, pourtant. Ce qui est dommage, c'est que les gens n'ont pas envie de réfléchir.
Et alors, pour votre livre, vous avez fait le choix d'un lieu précis pour cette lutte écologique, qui est le lieu de la mer, le cadre marin. Alors, en quoi, vous appelez ça l'immensité non surveillée, en quoi ça paraît symbolique, justement, des enjeux aujourd'hui de ces combats ?
Ce qui est amusant, c'est toujours la question, vous savez, de qu'est-ce qu'on fait quand on est invisible, quand pas puni, pas pris. Alors à ce moment-là, tout est permis. Ça me fait penser à ça. Et effectivement, c'est bien triste de penser que quand on est sûr qu'on ne sera pas pris, on ne s'interdit pas soi-même, on ne se met pas les limites. Et donc oui, les mers sont des espaces hors la loi, de non-loi en fait. C'est même pas hors la loi, c'est des espaces de non-loi. Et du coup, bon, c'est toute la question aussi de qu'est-ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller pour faire respecter la loi.
Et alors, pour cet ouvrage, vous avez, j'imagine, fait un travail de documentation, de recherche assez impressionnant. Parce que ce soit sur le plan géographique, scientifique, vous avez dû passer des heures dans des livres précis. C'est des choses que vous...
Je savais, naturellement.
Mais oui, vous êtes née en sachant toutes ces choses-là.
Non, c'est vrai, mais c'était pas si impressionnant, enfin... C'est vrai que depuis que j'ai fait mon livre sur 14-18, où là j'ai passé 4 ans de travail, celui-là m'a paru franchement tout petit à côté. Hein. Mais il faut quand même dire juste que c'est un plaisir de se documenter. Enfin, pour moi, le livre, c'est ça. C'est comme un... Attendez, comment est-ce qu'on appelle ça en économie ? C'est une externalité de tout un travail de questionnement, de recherche. J'assouvis ma curiosité. Donc effectivement, je choisis toujours des sujets sur lesquels je ne connais pas tellement de choses, mais j'ai envie de les connaître. J'ai envie d'y passer du temps, de savoir. Et donc là, c'est vrai que c'était formidable, parce qu'il y avait les baleines, il y avait se promener dans les atlas, il y avait la navigation, toute la lutte écologique, les problèmes entre les écologistes. C'était vraiment intéressant, oui.
Derrière ce problème écologique, vous soulevez aussi le problème des lobbies économiques et politiques. Vous n'avez pas dû vous faire que des amis ?
De toute façon, j'ai rencontré personne et je travaille complètement en dehors. Et puis, je pense que beaucoup de ces gens ne lisent pas de romans, donc ils ne seront jamais au courant de l'idée que j'ai fini par me faire de ce monde-là. J'ai quand même signé quelques pétitions pendant que j'écrivais le livre. Par exemple, une pétition contre le chalutage profond, parce que je trouvais ça quand même la preuve même que les politiques ne sont pas libres. Sinon, comment est-ce qu'une chose qui est avérée destructrice gravement peut être autorisée ? Il n'y a pas d'autre explication que des transactions, des choses qui se passent, des négociations secrètes, des choses qui font qu'un homme politique ne peut pas voter librement pour s'opposer à quelque chose qui est néfaste.
Et alors, par contre, les militants qui, eux, on l'espère, lisent des livres, est-ce que vous avez eu des retours des milieux militants? Parce qu'on voit que votre personnage, quand même, il est contesté, même dans ces milieux-là. Ouais. Est-ce que vous avez eu des retours par rapport à ça?
Ben, en fait, la chose la plus étonnante qui me soit arrivée, c'est que j'ai rencontré Paul Watson.
Mais, ça, c'est du retour.
Oui, c'est bien, oui. Oui, c'était il y a, je sais pas, un mois au festival de Montsartou. Et il était là et du coup, les organisateurs nous ont présenté. Et c'était très étonnant parce que je me suis rendu compte que... Alors d'abord, je suis frappée par le pouvoir de la fiction de ressentir la vérité. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout été déçue. C'est-à-dire, par exemple, je n'ai pas rendu hommage à un crétin ou je n'ai pas rendu hommage à un prétentieux. Parce que je me suis aperçue en particulier que toutes les critiques que j'avais pu lire à son égard étaient, mais de toute évidence, injustifiées. Par exemple, on dit qu'il veut être le gourou, qu'il est... Or, pas du tout. J'ai trouvé au contraire un homme très modeste, effacé. Par exemple, j'avais eu le sentiment qu'il était cultivé. Il l'est, très cultivé. C'est pas du tout une sorte de brute qui irait rentrer dans les bateaux, qui pêche les baleines comme ça pour rien. Il y a derrière toute une pensée, quelque chose de très argumenté. Donc ça m'a fait plaisir. Et en même temps, ce que j'ai senti aussi, c'est que si je l'avais rencontré avant d'écrire mon livre, je ne l'aurais pas écrit. Et en fait, ça m'a fait penser vraiment à cette phrase de Proust, vous savez, qui dit « On ne rêve pas de ce qu'on a sous les yeux ». Et c'est exactement ça. Moi, j'écris toujours mes livres dans une rêverie. Et c'est cette rêverie qui me porte à chercher, à réfléchir, à ressentir, à me mettre à la place d'eux. Mais si on la casse, et c'est pour ça que je me sens très différente des journalistes, par exemple, un journaliste aurait été interviewé Paul Watson, il l'aurait vu, il lui aurait parlé de vive voix, et puis ensuite il aurait fait son livre. Moi, c'est pas du tout comme ça que je peux travailler. Donc je n'enquête pas, je rêve. Et par la rêverie, j'espère découvrir quelque chose d'intéressant et le partager.
Alors d'après ce que vous venez de dire, et le fait même que vous écriviez sur l'engagement prouve que vous êtes quelqu'un de plutôt optimiste. Et pourtant, bon, le constat global du livre, alors je ne dévoilerai pas la fin, est plutôt pessimiste. Est-ce que, je ne vous demande pas de vous transformer en Madame Irma, mais vos pronostics sur le futur, si vous écrivez un règne du vivant 2 dans 10 ans, à votre avis, on en sera où ?
Ben moi, je me dis que clairement, on ne changera de politique, de comportement, on pensera autrement que quand on sera acculé à le faire. Mais je reste quand même optimiste dans le sens où, c'est marrant, moi, j'ai écouté il n'y a pas très longtemps Monsieur Mélenchon qui parlait de ça, et je l'ai trouvé que ce qu'il disait était formidable, parce qu'il était dans une sorte de motivons-nous. C'est vrai qu'on est un pays où il y a extrêmement beaucoup de gens brillants. Alors là, tout le monde dit « Ah ben, on a eu 2 prix Nobel ». Et tout le monde a l'air de redécouvrir qu'on a beaucoup de gens brillants, que nos écoles sont formidables, qu'effectivement, les gens qui font... Les ingénieurs sont des gens qui sont très sérieux, qui ont une vraie formation en France. Et ça m'a fait plaisir d'entendre Mélenchon dire « Mais disons aux ingénieurs, allez-y, trouvez-nous des voitures qui non seulement ne polluent pas, mais dépolluent ». Moi, parfois, avec mes enfants, on imagine comme ça des choses qui sont inimaginables et qui produiraient de la dépollution. Par exemple, imaginez un bitume qui aspire les fumées d'échappement. Enfin, je dis n'importe quoi, mais... Donc, j'ai cet optimisme-là. Je me dis, on a inventé tellement de choses dont on n'avait absolument pas l'idée. Maintenant, si les cerveaux qui sont inventifs se mettaient à penser à ça, oui, pourquoi
Vous ne voulez pas organiser une table ronde avec toutes vos idées? Il y aurait peut-être plein de gens pour vous suivre.
Il y a plein de gens qui en ont et je ne me sens pas particulièrement nécessaire. Mais en tout cas, oui, c'est le seul optimisme qu'on peut avoir. Qu'on peut regarder. Regardez, je suis allée voir l'autre jour le sel de la terre. Regardez, c'est cette replantation. On voit une petite colline absolument déforestée, ravagée, ravinée. Et 10 ans plus tard, des milliers d'arbres. Donc on peut vraiment faire des choses. Donc je pense qu'à un moment, quand on aura touché le fond, voilà, on mettra en œuvre toutes ces potentialités qui existent.
Donc là, vous décrivez le monde à l'envers actuellement. Peut-être qu'on va réussir à le retourner dans l'autre sens.
Il faut penser ça, oui.
En tout cas, merci beaucoup Alice Fernet d'être venue nous parler donc du règne du vivant chez Actes Sud et bonne rencontre à la boîte à livres.
Au revoir. Merci, au revoir.
C'était l'interview des poches sous les yeux en partenariat avec la boîte à livres. Retrouvez cette interview sur radiobeton.com, despochessousleyeux.fr ou encore la page Facebook des poches sous les yeux.